En Algérie, l'annonce le 9 février 2019 de la candidature à un 5e mandat d'Abdelaziz Bouteflika, âgé de 82 ans, muet et impotent, déclencha un mouvement populaire le plus important depuis l'indépendance du pays en 1962. Dès le 16 février, une manifestation d'ampleur eut lieu à Kerata dans l'est du pays. Et le vendredi 22 février, à Alger, des milliers de jeunes répondant à un appel lancé sur les réseaux sociaux bravèrent l'interdiction de manifester. Dans les semaines suivantes, le mouvement ne fit que s'amplifier. Sous la pression populaire, le 2 avril, Ahmed Gaïd Salah, le chef d'état-major de l'armée, poussait Bouteflika à démissionner. C'était trop peu et trop tard. Des millions de femmes et d'hommes, de toute génération et dans tout le pays, réclamaient une Algérie libre et démocratique et une seconde indépendance. Ils exigeaient désormais le départ de tout le système. Ils estimaient que les sacrifices consentis par le peuple algérien lors de la guerre d'indépendance ont été détournés par les généraux qui ont confisqué le pouvoir.
Un an plus tard, le 21 février 2020, pour le 53e vendredi consécutif, des cortèges nombreux réclamaient toujours le départ de ce système. 3 jours plus tard, le premier cas de coronavirus était relevé en Algérie. Et à la mi-mars, face à la pandémie, les manifestants décidaient de suspendre les manifestations hebdomadaires. Revenons sur les événements marquants de l'année écoulée. Après la démission de Bouteflika, le chef de l'armée, Ahmed Gaïd Salah, s'est démené pour tenter de désamorcer la contestation. Il mena à tambour battant une opération main propre qui conduisit en prison des grands patrons, des hauts fonctionnaires, une dizaine de ministres et 2 ex-premiers ministres. Si Gaïd Salah réussit ainsi à réduire les manifestations, en même temps, ses déclarations et l'arrestation des porteurs du drapeau berbère alimentèrent la colère. Les solutions politiques qu'il proposait étaient massivement rejetées, si bien que l'élection présidentielle prévue le 4 juillet dut être annulée.
Par contre, celle du 12 décembre a bien eu lieu, malgré les nombreuses manifestations et les appels au boycott. Les partis dits d'opposition ne présentèrent pas de candidats, et ceux présents apparaissaient tous liés au système. L'abstention massive atteignait près de 60% dans certaines régions. Abdelmadjid Tebboune a été élu dès le premier tour, après une campagne où il affichait une volonté de dialogue vis-à-vis du Hirak, qu'il qualifiait de béni. Il promettait d'augmenter le salaire minimum et de supprimer l'impôt sur le revenu, l'IRG, pour les bas salaires. De cette façon, il a certainement dû toucher une fraction de l'électorat populaire et une partie de la population qui aspirait à une certaine stabilité. Élu par une petite fraction de l'électorat et fragilisé par la mort de Gaïd Salah, un de ses principaux soutiens au sein de l'armée, Tebboune a compensé son manque de légitimité en multipliant les annonces sur la moralisation de la vie publique. En janvier 2020, il s'est engagé à améliorer les libertés individuelles et a donné quelques gages en faisant libérer des détenus. Mais d'autres sont restés en prison. Et la police a procédé régulièrement à de nouvelles arrestations. La loi de finances et le programme d'austérité annoncé en janvier 2020 ont eu raison des quelques espoirs que son élection avait suscités dans une fraction de l'électorat.
La pandémie est survenue alors que l'économie du pays était déjà exsangue, victime de la chute des cours pétroliers depuis 2014. Le secteur du montage automobile, que le pouvoir avait activement soutenu, était au ralenti à cause de l'arrêt des importations des kits de montage, mais aussi à cause de l'arrestation de grands patrons du secteur. L'État n'ayant plus les moyens de financer les grands chantiers, 60% des entreprises du BTP ont fait faillite en 2019. De nombreux maçons, couvreurs et architectes se sont retrouvés au chômage. Cet hiver, les faillites ont été nombreuses également dans le secteur du commerce et de la distribution. 3 200 entreprises ont dû fermer et des centaines de milliers de salariés ont été licenciés.
En marge des manifestations du Hirak, à partir de l'automne 2019, une contestation sociale perlée s'est exprimée. Des protestations locales se sont organisées pour l'accès au logement, pour réclamer le raccordement au gaz ou encore l'entretien de routes défoncées. Les travailleurs en contrat aidé, sous-payés et précaires, ont fait grève pour exiger l'embauche qu'on leur avait promise. Des grèves ont eu lieu aussi pour exiger le paiement d'un salaire non versé depuis des mois. Partie de la base, la grève nationale des enseignants du primaire a été arrêtée par la pandémie. Durant 5 mois, ils ont réclamé des augmentations de salaire et dénoncé leurs conditions de travail dans des écoles surchargées et sous-équipées. Si elle a eu un écho favorable dans la population, le gouvernement, lui, est resté sourd à leurs revendications, n'hésitant pas à les réprimer. Le confinement et le couvre-feu mis en place depuis le 23 mars ont aggravé la crise sociale et ont mis au premier plan l'état d'abandon des hôpitaux publics. Depuis des années, les personnels des hôpitaux font face à un manque de moyens qu'ils n'ont pas cessé de dénoncer. Sans parler de la pénurie de médecins qui, ces dernières années, ont quitté massivement le pays pour l'Europe en quête de meilleurs salaires. Tebboune a affirmé que face au virus, la situation était sous contrôle, alors que sur le terrain, c'est la pénurie en moyens de protection et en médicaments. Les travailleurs et les travailleuses en particulier ont manifesté leur colère contre cette pénurie et aussi contre des directions qui n'hésitent pas à sanctionner les absents sans se soucier des moyens de transport ou des problèmes de garde d'enfants. Face aux défaillances de l'État, dans de nombreuses localités, les habitants organisés dans des associations ou dans des comités ont multiplié les initiatives pour aider les plus démunis et diffuser l'information sur la propagation du virus. Méfiant face à de telles initiatives, Tebboune, tout en les saluant, a essayé qu'elles soient encadrées par l'État, sans succès. Il a annoncé une réforme du secteur de la santé et les personnels ont des raisons de craindre qu'elle ne prépare la privatisation des hôpitaux.
Si les conséquences de la pandémie en nombre de cas et de morts sont pour l'instant heureusement limitées en Algérie, celles provoquées sur l'économie sont déjà désastreuses. Le confinement a conduit à l'arrêt partiel ou total d'une partie de l'activité économique. Le gouvernement a ordonné la mise en congé exceptionnelle rémunérée de la moitié des salariés des secteurs publics et privés. Dans la réalité, des travailleurs en congé n'ont pas touché leur paye, et ces congés s'apparentent souvent à des licenciements déguisés. Quant aux patrons, ils vont toucher des aides publiques tout en justifiant le non-paiement des salaires. Le chômage a augmenté sans que l'on puisse disposer de chiffres officiels fiables, d'autant que le secteur informel domine dans le commerce, la restauration ou les transports. Avec l'arrêt de l'économie mondiale, le baril de pétrole a perdu 60% de sa valeur depuis janvier. 95% des devises du pays proviennent des exportations en hydrocarbures. C'est donc une catastrophe économique pour le pays, qui importe une grande partie de ce qu'il consomme. Les réserves de change, constituées durant la période où le baril était à 100 $, sont estimées à environ 44 milliards. Elles ont, pour l'instant, évité à l'Algérie de s'endetter auprès du FMI. Mais le recul des recettes pétrolières, de 37 à 20 milliards de dollars, a contraint Tebboune à prendre des mesures drastiques. Il prévoit de réduire de moitié le budget de fonctionnement de l'État. Dans le même temps, il a pris des mesures en direction des classes populaires. Une aide d'urgence pour les plus démunis, équivalente à la moitié du salaire minimum. La régularisation des travailleurs en contrat aidé. L'augmentation du salaire minimum et des pensions de retraite, ainsi que la suppression de l'impôt sur le revenu pour les salaires inférieurs à 30 000 dinars. Même si les plus démunis perçoivent une aide et si des augmentations arrivent dans la poche des travailleurs et des retraités, elles ne leur permettront pas de faire face aux dépenses croissantes du quotidien. Ces mesures ont certainement pour objectif de contenir la contestation sociale qui couve depuis des mois, mais suffiront-elles ? Tebboune prétend compenser la baisse des recettes pétrolières en développant l'agriculture saharienne et en exploitant l'uranium, l'or et le phosphate dont le sous-sol algérien est riche. Il prétend aussi taxer le secteur informel dont les activités sont évaluées à 42 milliards d'euros. Mais comment fera-t-il pour contrôler ces circuits? Il s'était engagé à stabiliser les prix de la viande qui flambent durant le mois de Ramadan. Mais ses injonctions aux barons du secteur sont restées sans effet. La loi du profit est la plus puissante. Alors, derrière tous ces discours, il prépare de nouvelles attaques à l'encontre des classes populaires. Il est question de remettre en cause les subventions sur le gaz, l'essence ou l'électricité. Et qu'en sera-t-il des subventions sur les produits de première nécessité, le lait, l'huile, la semoule? Depuis des années, les grands patrons ont qualifié ces subventions de primes à l'émeute et ont réclamé leur suppression. Mais durant l'année écoulée, ils ont dû ravaler leur morgue et leur mépris envers les classes populaires qu'ils traitaient de fainéants et d'assistés. Dans toutes les villes du pays, un des slogans les plus repris et qui leur était aussi adressé a été « Vous avez pillé le pays, bande de voleurs ».
De toutes les forces politiques présentes dans le mouvement, des démocrates, du pacte de l'alternative démocratique à ceux de la dynamique de la société civile, et aux islamistes de toutes obédiences, aucune n'a réussi à s'imposer à sa tête. Les islamistes, pour l'instant, ne sont pas apparus comme une perspective crédible à l'ensemble de la population, malgré leur activisme. Bien que ces forces se fassent concurrence, elles sont prêtes à servir fidèlement les intérêts de la bourgeoisie algérienne. Et dans le mouvement, elles ont ignoré les intérêts de la jeunesse et des classes populaires. Si le mouvement n'a pas obtenu de réponse aux espoirs et aux aspirations des classes populaires, il a mis un terme à la peur et à la résignation. La persistance des marches hebdomadaires a permis aux manifestants de défendre leur droit de s'exprimer dans l'espace public. Avec la pandémie, les manifestations sont suspendues. Mais le pouvoir, lui, poursuit les arrestations, la censure et les intimidations. Dans le même temps, Tebboune tente d'obtenir l'adhésion des classes populaires par ses mesures concernant le pouvoir d'achat. Mais pour répondre aux exigences des classes dominantes algériennes et du FMI, Tebboune n'aura pas d'autre choix que de mener une politique d'austérité drastique qu'il aura bien du mal à imposer après l'immense remous social qui a secoué le pays. Pour les classes exploitées, le combat pour une vie digne et libre est sans fin. Sans fin tant que perdurera la domination des classes dominantes algériennes et derrière elles du système capitaliste mondial. Seule la classe ouvrière peut, en se portant à la tête des classes populaires et en combattant pour ses intérêts propres, abattre ce système de domination. Tout en se joignant aux foules mobilisées dans le Hirak, elle n'est pas vraiment apparue jusqu'à présent en tant que classe solidaire, consciente de ses intérêts collectifs et porteuse d'objectifs révolutionnaires. La période qui s'ouvre, avec l'aggravation prévisible de la situation économique, la placera de plus en plus face à cette nécessité. Et elle est la seule classe qui puisse tracer une perspective de renversement du capitalisme, seule façon de répondre aux espoirs d'émancipation exprimés depuis un an par les classes populaires algériennes.